Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons reprendre donc les repas. Le Seigneur Jésus a fait beaucoup de repas, comme vous avez pu constater. Et puis, à chaque fois, eh bien, il a donné un enseignement. Il y a eu des choses qui sont particulières, qui étaient à cause de ce repas. Et il y en a un que on peut requalifier le dernier repas que le Seigneur Jésus a fait avec ses disciples. C'est au chapitre 21 de l'évangile de Jean qu'on le trouve. C'est un pique-nique. C'était au bord de la mer. Alors, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, nous allons avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Dans ce texte, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. C'est bon, il y a d'abord la tristesse des disciples, hein, parce que ils étaient tous réunis et non pas pour s'encourager. Hein. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous sommes dans le découragement et on trouve deux ou trois personnes pour le partager avec nous. Et au lieu de s'encourager, eh bien, on se désespère davantage. Et on se dit, ah, si nous avions su, ah, si nous avions fait, ah, si nous n'y avions pas été. Et avec les si et les hein, si on n'avait pas fait, si on avait été, eh bien, on ferait beaucoup de choses que l'on n'a pas faites et que l'on aurait pu faire. Et c'est les regrets du temps perdu, des occasions ratées. Parfois même d'une vie ratée. C'est beaucoup de gens en sont là et beaucoup de gens s'arrêtent, baissent les bras et disent ben c'est raté, c'est fini, on n'y arrivera pas, on ne peut plus y arriver. Et c'est donc ces disciples, quand vous regardez les disciples, vous voyez plusieurs apôtres, pour ne pas dire à part deux qui sont deux autres disciples dont les noms ne sont pas mentionnés, les autres sont des apôtres. Alors, ils étaient là, non pas pour s'encourager, mais pour se décourager. Et alors, Pierre a une idée merveilleuse. Il dit, alors retournons à ce que nous faisions avant de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est exactement ça. C'est retournons en arrière, revenons au passé. Essayons de retrouver nos marques comme si le Seigneur Jésus n'avait jamais existé, comme s'il n'était jamais venu. Et en fait, dans ce que Pierre dit, c'est tout cela qui est contenu. C'est de faire un retour en arrière. Et c'est ce que l'on appelle être rétrograde. Vous avez ce que l'on appelle dans le milieu chrétien les chrétiens rétrogrades. Ce sont les chrétiens qui sont revenus en arrière. Alors, je voudrais, un chrétien rétrograde n'est pas un chrétien apostat. Un chrétien apostat, c'est quelqu'un qui renie une chose à laquelle il a cru et qui est remplacée par quelque chose d'autre. Mais un chrétien rétrograde, c'est souvent quelqu'un de découragé qui baisse les bras et qui retourne à ce qu'il faisait avant. Il retourne au monde. Souvent, il retourne dans le monde et il voit pas pourquoi il continuerait. Il a perdu son énergie, il a perdu son ressort, il a perdu sa raison de vivre et sa raison d'espérer surtout. Donc ils ne remettent pas le Seigneur Jésus en question, ils ne remettent rien de ce qu'ils ont vu, mais ils retournent en arrière. Et ils vont, ben, qu'est-ce qu'on était avant de rencontrer le Seigneur Jésus? Des pécheurs. Ah ben bien sûr, ils étaient pécheurs dans le sens qu'ils commettaient des péchés, mais ils étaient des pécheurs de poissons. Et alors, ils s'en vont, ils vont pêcher. Et donc, ils ont une bonne occasion de le faire. Donc, on soupçonne qu'ils étaient pas loin de la mer. Il y avait une barque qui était là, et ils sont allés à la pêche. Et cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Alors, c'est le désespoir qui s'ajoute à la déception. Parce qu'ils espéraient quand même avoir un petit signe. Pêcher quelques poissons, on leur aurait dit, bon, ben, ça va, tu as pas oublié le métier. Tu es quand même encore capable de pêcher des poissons. Mais ce jour-là, cette nuit-là plutôt, ils n'ont rien pêché. Et alors, imaginez un petit peu, hein, mettez-vous à leur place. Ils n'avaient plus rien. Ils espéraient encore pêcher des poissons. Et puis, ils ne pêchent pas de poissons. Il n'y avait rien dans la barque. C'est quelque chose de triste, vous savez. Quand le Seigneur Jésus, on a des doutes sur lui, quand on a perdu nos repères par rapport à lui, et que l'on essaie de retrouver dans le monde l'espoir que l'on a perdu, que l'on retrouve, essaie de retrouver des raisons de vivre dans le monde. Ils sont allés, ils ont constaté que cette mer qui leur était propice dans le passé, hein, on dit quelques auteurs, elle était marâtre, c'est-à-dire qu'elle leur donnait pas grand-chose pour beaucoup d'efforts. Donc à la fin de cette nuit, eh bien, ils étaient dans cette barque, en train d'essayer peut-être pour la énième fois de jeter le filet et de le ramener vide. Et voilà que le Seigneur Jésus apparaît. Et le Seigneur Jésus leur donne des paroles merveilleuses. Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et il ne leur a pas dit, avez-vous pêché du poisson? Parce que si vous allez au bord d'un lac ou d'une rivière, vous passez à côté d'un pêcheur, vous connaissez la petite phrase, hein, sa mort. Hein? Mais même pas, le Seigneur Jésus ne leur a pas dit sa mort. Vous avez rempli le filet. Combien de fois l'avez-vous rempli cette nuit? Il leur dit, avez-vous à manger? Et en fait, ils n'avaient pas à manger. Parce qu'ils n'avaient pas pris de poisson. Ils n'avaient plus rien. Ils étaient au bout d'eux-mêmes. C'était la défaite complète. Le désespoir qui était là. Et le Seigneur Jésus s'approche d'eux. Et c'est curieux, vous savez, qu'ils leur disent enfants. C'est Jean, hein, qui le souligne. Parce que on rencontre, quoique Jean était un homme fougueux et rempli d'une certaine violence, hein, dans sa jeunesse, eh bien, dans son âge mûr, c'était un homme d'une extrême douceur et d'un grand amour. Quand on lit l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, on voit combien il est rempli de douceur. Bien-aimé, mes enfants, mes petits-enfants. Hein, c'est un terme que Jean affectionne particulièrement. Et là, il rappelle que le Seigneur Jésus, eh bien, l'a dit aux disciples, enfants. Alors vous vous rendez compte, dans son humanité, le Seigneur Jésus avait, quand il a été crucifié, 33 ans. Et alors, il arrive auprès des disciples, dont certains étaient plus jeunes que lui, Jean en particulier, qui devait avoir moins de 16-17 ans, un grand, grand maximum. Et alors, à mon avis, il leur dit enfant. Et puis, il y avait des personnes plus adultes qui le disent à Jean enfant. On le comprend, mais aux autres des disciples qui étaient plus adultes. Mais là, ce n'est pas l'homme qui leur parle, c'est le Dieu vivant, le Dieu qui vient de les sauver, le Dieu qui vient de les racheter, qui a payé le prix à leur place, qui leur a offert le salut, leur a offert un salut merveilleux, un salut gratuit, un salut qui est efficace non seulement à cette époque, mais encore à la nôtre et jusque au moment où il y aura encore des personnes pour l'accepter. Et le Seigneur Jésus donc est arrivé et il leur a dit, enfant, il y a de la compassion et il y a de l'amour dans ses paroles. Vous voyez ces hommes découragés, complètement au bout d'eux-mêmes. Ils n'espèrent plus grand-chose. Ils sont dans la peine, dans le désespoir même. Et même le petit espoir qui leur restait, la petite lumière qu'ils avaient, celle de dire, bon, on retourne à ce que l'on a toujours fait, à ce que l'on sait. Eh bien, ils se sont rendus compte que même là, ils ne pouvaient plus. C'était fini. Il y avait quelque chose qui était fini. Alors, ils sont là dans la barque. On ne sait même pas quelle conversation ils ont pu avoir au moment où ils ont ramené pour la dernière fois le filet. Et peut-être il y avait un grand silence qui parlait plus que des paroles. C'est leur découragement devait être très palpable entre eux. Et puis le Seigneur arrive. Il leur dit, enfant. C'est une parole qui a dû les remuer. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et puis, ils ont dit non. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a rien à manger. Alors il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et ça, c'est quelque chose qu'ils connaissaient. Il y avait déjà eu une occasion où le Seigneur Jésus avait dit cela. Sur ton ordre, nous jetterons le filet, hein, vous vous rappelez. C'est pas la première pêche miraculeuse, hein, mais c'est au moins la deuxième. Et alors, ils l'ont fait, sans se poser de questions, sans percuter qui leur donnait cet ordre. Voilà, quelqu'un leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Alors quelqu'un dit, ah là là, mais oui, mais le Seigneur Jésus, sur le bord de la mer, voyait le banc de poissons qui était sur le côté droit de la barque. Hein. C'est évidemment. Mais il est difficile, vous savez, de voir le banc de poissons sur la mer quand le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève sur la mer, vous l'avez dans les yeux. Et vous ne pouvez pas voir le banc de poissons. Hein? Ça, c'est une bonne réponse pour ceux qui vous diront qu'il avait vu le banc de poissons à travers l'eau de la mer. Puis 200 coudées, divisé 200 par 3, et vous aurez en mètres la distance. Et donc ça faisait 75 mètres, quelque chose comme ça. Donc à 75 mètres, il fallait quand même avoir bonne vue pour voir un banc de poissons si loin. Hein? C'est bon. Bref, je leur laisse leurs affirmations. Et le Seigneur Jésus leur dit. Et puis, ils le font. Et ils jettent le filet. Et là, ils ne peuvent plus le ramener tellement il est rempli. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, ils n'ont pas pu le retirer parce que ils retiraient le filet, ils le vidaient dans la barque et ils rejetaient le filet d'habitude. Mais là, il y avait tellement de poissons qu'ils n'ont pas pu le retirer et qu'ils l'ont traîné sur le rivage. Hein, ils l'ont tiré avec la barque. Mais c'est quelque chose, vous savez, c'est le Seigneur Jésus a fait un nouveau miracle. C'est en fait, pratiquement le dernier miracle que le Seigneur Jésus a fait sur la terre. C'est au milieu de ses disciples. Il y a eu cette pêche. Une pêche miraculeuse, une pêche qui dépassait ce que ces gens qui étaient experts en pêche et en capture de poissons pouvaient penser, hein, 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Hein, vous imaginez la chose. Et ils ont tout constaté, hein. Ils ont compté les poissons, et ils ont constaté que le filet était solide et qu'il a tenu bon, malgré que 153 grands poissons, ça n'aurait pas dû être le cas. Le miracle après miracle. Hein. Et voilà, donc les disciples, tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu. Et moi je me dis, voilà, souvent nous sommes dans le désespoir, nous sommes dans la tristesse, et souvent nous avons de la peine. Souvent nous ne voyons pas le bout du tunnel. Souvent on se dit, mais comment? De quelle manière vont arriver les secours? De quelle manière Dieu peut-il intervenir? Dieu a le choix des moyens. Et nous n'avons pas d'ordre à lui donner, ni de conseil. Et c'est vrai que nous sommes bien souvent, et j'aime cette histoire, j'aime qu'elle soit dans les évangiles, parce que vous pouvez mettre nos noms dessus, chacun en particulier, dans les circonstances que vous voulez. Combien de fois vous dites, oh là là, j'en ai assez? Combien de fois? Oh, bien sûr, si vous avez accepté le Seigneur il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas encore été tenté de cette manière-là. Mais il arrive des moments où on est découragé et on a envie de baisser les bras. Et on trouve deux ou trois personnes dans notre cas pour s'encourager à se décourager et aller jusqu'au bout de soi-même et voilà, descendre et revenir dans le monde, revenir à des principes élémentaires, revenir à des choses qui ne nous ont pas comblés dans le passé, qui n'ont pas rempli nos cœurs. Vous savez, je ne parle même pas d'entrer dans le péché. Ce n'est pas le péché qui est important, c'est de mettre le Seigneur Jésus de côté, de mettre les choses éternelles de côté au profit de choses qui ne sont pas éternelles, de choses qui ont tendance à disparaître, de choses qui sont limitées dans le temps, des choses qui sont relatives, des choses qui n'ont rien à faire avec le monde spirituel. Toutes ces choses ne remplissent pas le cœur. Même si, je répète, ce n'est pas le péché. Ce sont des choses qui ne remplissent pas le cœur. Beaucoup de gens font beaucoup de choses dans cette vie. Beaucoup de chrétiens sont actifs dans ce monde et ont des loisirs. Et je ne suis pas contre les loisirs, mais je suis contre le fait que l'on mette dans ces choses-là un espoir qui revient qu'en Dieu lui seul. C'est-à-dire que nous sommes, au lieu d'être remplis par Jésus-Christ, au lieu de que sa vie remplisse notre vie et remplisse notre cœur, eh bien, nous laissons notre cœur se remplir par des choses qui n'ont pas de valeur, qui sont limitées dans le temps, qui un jour doivent disparaître, et surtout qui ne désaltèrent pas, qui ne donnent pas la satisfaction du cœur. Si elles donnent une satisfaction, c'est très temporairement, sur un instant. Ce ne sont pas des choses qui agissent définitivement dans notre vie. Tandis que la paix et la joie que le Seigneur met dans notre cœur, c'est une paix et une joie complète pour l'éternité. Cette joie ne passera pas, elle ne disparaîtra pas. Un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, et la joie nous aura suivis à cet endroit-là. Nous serons avec lui, et non seulement cette joie ne nous aura pas quittés, mais elle sera multipliée. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cette joie va grandir et dépassera ce que nous pouvons imaginer. C'est cela. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui parlent du dernier film, du dernier repas, des choses. Je ne dis pas, ce ne sont pas des péchés. Ce n'est pas mauvais d'y penser. Mais c'est la manière d'y penser qui est mauvaise. C'est la manière d'y mettre notre espoir, d'y mettre notre joie, d'y mettre. S'il n'y a qu'à Dieu que nous devons avoir recours pour obtenir ce que nous attendons de ces choses, il n'y a que lui qui peut nous remplir. Il n'y a que lui qui peut nous donner une pleine satisfaction. Et ses disciples, eh bien, étaient dans le désespoir parce que, quoique le Seigneur Jésus soit ressuscité et qu'il l'ait vu ressusciter, ils sentaient bien que quelque chose avait changé, que le Seigneur Jésus n'était plus avec eux de la même manière. Tant qu'ils le suivaient, qu'ils le voyaient, tout allait bien. Mais là, le Seigneur Jésus apparaissait, et puis il disparaissait. Et même à la fin, au verset 14, il dit, c'était déjà la troisième fois qu'il le voyait, mais il ne le voyait pas constamment. Tandis que dans le passé, oui, il le voyait tout le temps, parce que le Seigneur Jésus était toujours avec eux. Mais là, de temps en temps, il arrivait. C'est pas que de temps en temps, il ne le voyait plus, c'est que c'est de temps en temps, il le voyait. Et donc, il y avait quelque chose de changé, quelque chose de différent. Et ils n'étaient pas prêts à assumer ce quelque chose de différent. Mais le Seigneur Jésus les préparait pour quelque chose de mieux. Parce que c'est bien de voir le Seigneur Jésus, et même ces gens, hein, dans la première épître qui dit, si nous l'avons connu de cette manière, non, c'est Paul qui le dit, Jean dit quelque chose d'à peu près semblable. Mais Paul dit, si nous l'avons connu de cette manière, désormais ce n'est plus comme cela. Et Jean dit cela, comme la mémoire me fait défaut, je vais vous le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, que nos mains ont, nos yeux, de vue de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Donc tout ça, c'est concret, hein, on l'a touché, on l'a vu, on a mangé avec lui, on a partagé le pain, on a vu la multiplication des pains, on a vu les boiteux marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, on a vu des choses merveilleuses tous les jours. C'était merveilleux. Mais il fallait passer à une étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'étape de la foi. C'est croire sans voir. Et là, c'est plus difficile. C'est là qu'intervient la maturité. Parce que voir, c'est le propre des enfants. Les enfants, ils vont vous dire, oh, papa, oui, quand c'est que les cadeaux de Noël arrivent? C'est, oh, ils arriveront bientôt. C'est bientôt, demain, c'est trop tard, c'est trop loin. C'est une éternité. Si on dit les cadeaux sont au pied du sapin, alors là, voilà quelque chose de concret. Hein. Ce sont des enfants. Mais nous avons besoin de passer à l'étape adulte. Et l'étape adulte, eh bien, c'est l'étape de la foi. Il faut marcher sans voir. Croire sans tout comprendre. C'est où le Seigneur dit, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Et on aimerait bien comprendre tout de suite. Et on, le Seigneur nous dit, mais tu, tout ça t'arrive, mais tu comprendras plus tard. Donne-moi une petite explication, donne-moi une piste. Mais le Seigneur ne donne pas toujours la piste. Il faut que nous marchions par la foi. Et ce que le Seigneur privilégie dans notre vie, c'est la vie de la foi. Il faut qu'il y ait la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je vous le répète, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas transformer la parole de Dieu. On ne peut pas la mettre à notre usage, à notre convenance, pour un usage personnel. C'est pour tout le monde, c'est pareil. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit par la foi. Et parfois, eh bien, c'est sans voir. Et c'est même sans résultat. Et là, les disciples étaient bien déçus. Non seulement le Seigneur Jésus n'était pas là, ils ne pouvaient pas lui demander un miracle, parce qu'ils ne savaient pas comment lui demander, et où s'adresser, à qui, comment. Et puis, ils ont une initiative, et cette initiative n'a pas de résultat. Voilà. Toute leur énergie, toute leur imagination, toutes leurs ressources sont mises en échec parce que ils sont seuls. Il n'y a que des humains qui sont là, en train d'essayer de se sortir du trou. Ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas. Et alors, le miracle arrive. Le Seigneur Jésus est là. Et ils ne le reconnaissent même pas. Ils ne le voient pas. Il leur dit des paroles de compassion, de miséricorde, des paroles qui le caractérisent bien. Hein. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Rien qu'à cela, aurait pu dire, mais c'est pas un pêcheur qui nous a parlé. Parce que le pêcheur aurait dit, la nuit a été bonne, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un pêcheur, c'est un étranger qui est là. Et il leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Ils s'inquiètent s'ils ont faim. Ils s'inquiètent de l'immédiat. Ils ne s'inquiètent pas s'ils vont s'enrichir, s'ils ont attrapé assez de poissons pour vivre une semaine. Ils s'inquiètent, est-ce que vous allez manger ce matin? Et c'était l'immédiat. C'est l'instant présent. Il dit, dans ses paroles, il dit, je suis prêt à pourvoir à vos besoins pour ce matin. Il ne leur dit pas pour midi ou pour toute la journée, ce matin. N'avez-vous rien à manger? Et c'est là que la vie de la foi est une vie qui se poursuit. C'est une vie qui Dieu exauce, Dieu répond, Dieu intervient, mais le pas suivant est quand même un pas de foi. Et la foi, eh bien, se poursuivra jusqu'à ce que nous ne soyons dans le ciel et que la vue remplacera la foi. C'est tant que nous sommes sur cette terre, eh bien, nous sommes tenus de vivre par la foi, de compter sur le Seigneur, de regarder vers lui. Quoi qu'il en soit, nous voulons nous tenir dans sa présence. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons vivre en comptant sur lui. Et parfois, eh bien, il n'y a rien à voir. Et si nous voyons quelque chose, ce que nous voyons est plutôt décourageant qu'encourageant. Nous avons choisi des personnes pour nous décourager. Ils n'ont pas choisi les disciples qui avaient le plus de foi. Il est probable que c'était eux qui avaient le plus de foi. Les autres étaient loin. Ce sont les derniers qui avaient encore un petit peu de foi. Mais ils n'ont pas pu chercher quelqu'un qui croyait davantage. Mais au moins, quand on est découragé, on essaye de se retrouver avec des personnes qui sont capables de nous encourager, de nous fortifier. Mais nous sommes pervers, vous savez. Quand on est découragé, eh bien, on cherche plutôt des personnes qui nous découragent. Si quelqu'un vient vous dire, oh là là, vous êtes un malheureux, c'est triste ce qui vous arrive. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Et ça nous plaît. On aime bien les gens qui nous découragent. Tandis que les gens qui disent, mais non, mais ne t'arrête pas à ça, c'est rien, tu verras, ça passera, c'était qu'un mauvais moment. Il faut regarder plus haut. Ces personnes-là nous agacent quand même. Hein. Mais les disciples, eh bien, avaient besoin d'être encouragés. Et ils n'avaient personne pour les encourager que le Seigneur Jésus lui-même. Alors il est arrivé, et il leur a donné des paroles d'encouragement. Mais ils n'ont même pas su reconnaître ces paroles. Il leur parlait de nourriture, s'ils avaient mangé. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à manger, quelqu'un qui demande, qui pose cette question-là, c'est que quand même, il va essayer du pauvre. Ah ben c'est triste, hein. Quelqu'un vous dit, tu n'as pas mangé, ah, tu n'as pas mangé, ah ben, ça c'est triste, hein. Je te plains, hein. Vous dites, mais ça je le savais. C'est pas besoin de me poser la question. Donc si le Seigneur Jésus a posé la question, il donnait un espoir. C'est le fait même qu'il les ait appelés des enfants. Alors eux, ils ont répondu, non. Voilà, on est là, dans notre barque. Et alors il leur a donné comment dire, une direction. C'est le Seigneur Jésus, quand la vie chrétienne n'est pas une vie, beaucoup de chrétiens pensent que c'est une vie de miracles. Mais c'est vrai qu'il y a des miracles dans la vie. Mais dans la vie chrétienne, dans la vie avec le Seigneur Jésus. Mais les miracles ne se font pas tout seuls. Il faut jeter le filet du côté droit de la barque. S'ils avaient discuté, ben oui, pourquoi le côté droit? Le côté gauche, c'est beaucoup plus pratique. Le filet est peut-être déjà du côté gauche. Hein? Je sais pas. Le filet est plus. Ils n'ont pas discuté, ils l'ont fait. Le Seigneur Jésus, quand il intervient, il nous demande quand même une participation. On doit agir. C'est la vie de la foi n'est pas une vie passive. La foi est une action. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un travail. Même il est question une des épîtres, le travail de votre foi. Il y a un travail. Il y a quelque chose qui s'accomplit. Pour avoir la foi, il faut vouloir avoir la foi. Il faut travailler à construire notre foi. Il faut aller dans la direction de la foi. Il faut passer parfois du temps pour avoir davantage de foi. Et il faut demander la foi. Il faut dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Construis ma foi. Donne-moi les occasions d'exercer ma foi. Fortifie ma foi. Donne-moi une promesse sur laquelle je peux faire reposer ma foi. Il y a toujours quelque chose. Dieu nous demande d'agir. Si vous savez, Dieu pourrait sauver les multitudes qui sont dans ce monde. Hein. Il y a des millions de personnes perdues. Mais il n'a pas confié ça à un ange. Il a confié à des hommes. Et c'est nous qui devons le faire. C'est nous qui devons prier pour les âmes perdues. C'est nous qui devons avoir la foi pour les voir sauvées. C'est nous qui devons intervenir d'une manière ou d'une autre pour que le Seigneur mette les personnes sur notre route, que l'on soit prêt à les entendre, à leur poser les questions, à leur parler de la foi, leur dire les choses. Je ne sais pas. Il faut que on fasse les choses. Si nous sommes en difficulté, eh bien le Seigneur nous dit, lève-toi et prie. Demande. Vous vous rappelez cette parole, celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. On ouvre à celui qui frappe. Si on ne frappe pas, si on ne demande pas, si on n'a pas. Alors, il est vrai que Dieu, dans sa miséricorde, intervient. Et là, il est intervenu dans sa miséricorde. Les disciples n'ont rien demandé. Et le Seigneur Jésus est allé au-devant d'eux. Il a fait quelque chose en leur faveur. Il a dit, voilà, posez une question. Mais il leur a dit, voilà comment vous allez obtenir la réponse, comment vous allez être délivrés. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient plus le retirer, ce filet. C'est quelque chose, vous savez, notre Dieu, c'est le grand Dieu. Il est capable de faire des miracles qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Et là, ne croyez pas, Dieu l'a délivré par un filet, par une barque, mais il délivre de toutes sortes de manières. Je vais vous raconter, vous l'avez déjà entendu probablement cette petite histoire, mais je me rappelle d'avoir été, j'étais moniteur d'enfants en Bretagne. Et puis, on m'avait confié des jeunes filles qu'il fallait que je ramène d'une séance de film. Voilà. Et donc, j'étais le seul moniteur. Il y avait des monitrices, mais il n'y avait pas de moniteur. J'étais le seul. Donc, c'est moi qui avais la responsabilité de les ramener. Donc, et puis, je conduisais pas. Je n'ai pas le permis de conduire. Donc, c'était à pied. Et il y avait 4 km. Et on passait devant une caserne. Et alors, on est passé, puis j'ai entendu des souliers ferrés qui marchaient derrière. Et j'ai dit aux jeunes filles, allez, on avance, hein, on va pas traîner. Hein. Et alors, elles ont marché plus vite, et puis les souliers derrière marchaient plus vite. Alors, et puis c'était la nuit, il y avait 4 km, et c'était un endroit plutôt désert. Alors j'ai crié à Dieu, hein, j'ai dit, Seigneur, si dans 5 minutes tu n'as pas fait quelque chose, je réponds plus de rien. Là, franchement, ça va être une catastrophe. Parce que les jeunes filles n'étaient pas, elles étaient qu'à sociaux, hein, donc elles n'étaient pas contre. Et alors, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et c'est une, à l'époque, peut-être vous voyez pas, c'était une 404 familiale, c'est-à-dire une voiture 9 places. Et alors, il n'y avait qu'un seul, le chauffeur, c'est tout. Ah, oh, monsieur le pasteur, vous êtes là! Montez, montez! Oh, je vais tenir toutes les voitures, toutes les filles dans la voiture. On s'est tassé, hein, et on est parti. Cet homme, je l'ai rencontré une fois avant. C'était la deuxième. Plus jamais je l'ai rencontré. C'est un bon protestant qui était dans une église, une autre église. Voilà. On s'est rencontré, c'est tout. Voilà. Pour une exposition biblique d'ailleurs. Mais je peux vous dire, c'est la délivrance. Dieu est intervenu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Imaginez. C'est pour ça que je raconte cette histoire, parce que c'est pas possible autrement. C'est comment le hasard? Mais c'est pas possible, le hasard, ça n'existe pas dans ces cas-là. On ne peut pas parler de hasard. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant, qui intervient, qui a fait quelque chose. Je ne suis pas plus spirituel que vous. J'ai crié à Dieu, c'est tout, il a entendu. Parce que Dieu délivre ses enfants qui crient à lui. C'est dans son plan, dans sa nature de nous délivrer, de venir à notre secours. Ce n'est pas une question d'être plus spirituel ou d'avoir plus de foi. C'est que Dieu intervient quand on lui demande dans ces situations-là. Combien de chrétiens pourraient rendre témoignage d'avoir été délivrés d'une angoisse pareille, hein, d'avoir été presque à la mort. Et Dieu est intervenu, il les a arrachés. Combien de chrétiens, et on lit leurs témoignages, et c'est arrivé des milliers de fois. C'est exactement comme le Seigneur Jésus a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. On demande, Seigneur, délivre. Et puis, je ne me suis même pas posé la question s'il allait me délivrer ou pas. Parce que la voiture s'est arrêtée quasiment. Hein. Tout de suite, c'est arrivé. Je me suis dit, c'est quand même vraiment un miracle. Mais bon, après, j'étais le seul à le voir. Je crois que les jeunes filles l'ont pas vu. Mais c'est quelque chose, vous savez. C'est notre Dieu est le Dieu qui intervient. C'est le Dieu qui délivre. Le Dieu qui agit d'une manière merveilleuse, le Dieu qui fait au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Quand nous sommes dans une situation désespérée, notre Dieu vient à notre secours. Et alors, dans ce cas-là, eh bien, le Seigneur Jésus leur a donné une occasion. Il a dit, voilà, allez-y. C'est jeter le filet. Et ils l'ont fait. Ils ne pouvaient plus le retirer. Et Pierre, notre brave Pierre n'a rien vu, rien compris. C'est Jean, parce que le disciple que Jésus aimait, qui était, hein, il répète assez souvent dans ce chapitre, que c'était, on reconnaît, c'est lui qui rend témoignage en plus, c'est à la fin du chapitre qu'il le dit. Eh bien, ce disciple lui dit, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le seul qui a percuté. Vous vous rendez compte? Ils ont été pendant des années, 3 ans et demi, ils ont vu des miracles. Et ils ont vu une pêche, au moins une autre pêche miraculeuse avant. Ils n'ont rien vu, rien compris. Il a fallu que ce soit Jean qui leur dise, c'est le Seigneur. Alors ben, peut-être qu'ils étaient à la limite de le dire. Mais quand, c'est très significatif, hein, c'est le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Mais il n'avait rien vu encore. Et pourtant, c'était un miracle. Il dit, jette le filet du côté droit de la barque, ils ne peuvent plus le retirer. C'était du connu, ça. Comme nous sommes durs, hein. Et puis, je ne veux pas accabler Pierre, nous sommes comme cela. Combien de fois nous avons vu Dieu intervenir? Combien de fois? Il faut que quelqu'un nous dise, et parfois c'est un petit qui nous dit, ah ben, tu sais, il faut bien que ce soit le Seigneur hein, qui l'ait fait ça. Hein. Et on se dit, oh, c'est vrai que c'est quand même c'est le Seigneur qui fait ces choses-là. Nous sommes trop intelligents, nous en savons trop, nous sommes trop au courant. Alors que nous avons tellement de mal à mettre le nom du Seigneur sur tous les événements qui arrivent, mais il faut que ce soit Jean qui le dise. Celui qui était le plus proche, hein, il a bien vu, il a bien repéré que s'est dit, mais c'est pas possible autrement. C'est quelqu'un de très simple, Jean. Et Jean, semblait-il, un peu plus compliqué. Et alors, quand Pierre a compris, c'est pour lui, hein, il n'y a plus de doute. Alors il s'est habillé, il a sauté dans la mer et il est allé rejoindre le Seigneur. Et il a laissé le travail aux autres. Eh ben oui, parce que il fallait tirer le filet. Et c'est pas Pierre qui l'a tiré le filet, hein. Ce sont les autres. Et heureusement qu'ils étaient plus nombreux, ils étaient suffisamment nombreux. Mais Pierre, eh bien, est allé constater, voir le Seigneur. Mais ceux qui se sont occupés des choses plus matérielles, eh bien, sont restés dans la barque et l'ont laissé nager jusqu'au Seigneur. Alors, les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Vous voyez, le Seigneur Jésus campait. Il avait un feu allumé, il y avait du poisson, il y avait du pain qui était là. Et il était prêt à les recevoir. Et c'est là que je vous dis, il les a invités à un repas. Voilà. Ils étaient dans le dénuement. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas mangé. Et le Seigneur Jésus leur dit, venez, il y a à manger. Il y avait le feu qui était allumé. Il y avait les poissons qui cuisaient et le pain. Ils avaient de quoi manger. Alors. C'est quelque chose, vous savez. Bon, après, le Seigneur Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. C'est-à-dire que, bon, il n'y avait peut-être pas assez de poissons pour rassasier des faims, peut-être de plusieurs heures et d'une nuit sans manger, hein. Mais bon, le Seigneur Jésus leur dit, apportez, vous avez pêché du poisson, alors apportez-le aussi. Moi, je partage ce que j'ai, et vous aussi apportez ce que vous avez. Là, le Seigneur Jésus n'a pas multiplié les poissons. Il a donné l'occasion de pêcher. Voilà. De faire une pêche miraculeuse. Mais il n'a pas multiplié les poissons pour qu'ils aient davantage de nourriture. Et après, eh bien, c'était leur dernière pêche. C'était la dernière pêche. C'était fini après ça. Les disciples n'ont plus jamais été à la pêche. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont pêché, je m'avance beaucoup, mais ils n'ont plus exercé le métier de pêcheur. Ils ont été dans une autre mission. Ils ont fait autre chose de leur vie. Ils étaient disciples de Christ avant tout. Et ils devaient remplir la mission que le Seigneur Jésus voulait pour eux. Et ils ont dû l'accomplir jusqu'à leur dernier jour. Et là, la suite du passage que nous verrons la semaine prochaine, eh bien, nous montre que le Seigneur fixe leur mission. Mais là, le Seigneur Jésus, eh bien, les ramène. Comment dire, leur montre que leur dernière pêche, elle est miraculeuse. Leur dernière pêche physique, hein. Parce qu'il aurait pu multiplier les poissons, leur dire, bah, vous n'avez rien pris, venez, j'ai préparé à manger, mangez. Et le miracle, il y avait miracle, il y aurait miracle. Si miracle pour miracle, c'était bon. Mais le Seigneur Jésus a voulu leur montrer que s'il fallait pêcher, eh bien, ils n'avaient pas de souci à se faire pour la pêche. Elle pouvait se faire sans problème. C'était pas une question de technique ou une question de savoir-faire. Il était capable de leur donner toutes les occasions de faire des pêches miraculeuses. Mais ce n'était pas le but qu'il avait pour eux. Et puis il voulait aussi que la dernière pêche qu'ils accomplissent, eh bien, soit une pêche miraculeuse. Une pêche qui leur resterait dans l'esprit. Ils se diraient, la dernière pêche que nous avons faite, il y avait 153 gros poissons. Jamais nous n'avons pêché autant en un seul coup. Et c'est probablement ce que je vous dis, c'est je peux l'imaginer, mais avec beaucoup de certitude. C'est le donc Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, et il fit de même du poisson. Et là, vous voyez que dans son amour, dans sa compassion, eh bien, il leur dit pas, servez-vous. C'est lui-même qui prend le pain et qui prend les poissons et qui leur donne. Et là, je vois quand même encore un grand geste d'amour et de miséricorde, et de leur montrer, moi, je prends soin de vous. Ne vous occupez pas de ces choses. Ne vous occupez pas de ce qui est question nourriture, question vêtements et toutes ces choses. Il avait dit, hein, dans le sermon sur la montagne, ce sont les gens de ce monde qui s'inquiètent de toutes ces choses. Mais Dieu sait que vous avez besoin de tout ça. Et c'est par un miracle, par des concours de circonstances, d'une manière ou d'une autre, eh bien Dieu intervient. Et c'est lui-même. Il dit que c'est lui. Il leur a fourni, il a pris le pain, il leur a donné à chacun en particulier et le poisson. S'il a fait cela dans un geste de, comment dire, qui était plein de signification, c'est pas, comme je vous ai dit, il n'a pas dit allez servez-vous, mais c'est lui qui leur a donné. Et c'est dans ce geste on voit combien le Seigneur Jésus eh bien, est prêt à donner. Comment dire, à mettre dans notre main. C'est rassurant, vous savez. Nous sommes souvent dans des situations très difficiles, des situations sans issue humaine. Hein. C'est comment pouvons-nous faire? Alors nous disons, Seigneur, interviens, car dans cette situation, il n'y a que toi qui peux apporter la solution. Nous te demandons d'intervenir, agis. Parce que devant toute cette multitude, devant tout cela, nous sommes sans force. Et c'est même des paroles que l'on retrouve dans le livre des Rois, hein. Devant cette multitude, nous sommes sans force. Il est même question que le peuple d'Israël était comme un troupeau de chèvres sur le haut d'une colline, pour vous dire qu'il y avait les ennemis autour, et eux, ils étaient un petit groupe de rien du tout. Et Dieu leur a donné la victoire. Dieu est intervenu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des délivrances. C'est le Dieu qui intervient. Le Dieu qui change les circonstances, qui est capable de faire de la nuit la plus noire, eh bien en faire une lumière éclatante. Il transforme tout, il change tout. Il fait des œuvres si grandes et si parfaites que l'homme ne peut pas suivre. Hein. Nous sommes obligés de dire notre Dieu, c'est le grand Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. À lui, rien n'est impossible. Et si vous pouvez voir une chose difficile, sachez que Dieu est beaucoup plus puissant que cette chose difficile. Même si Satan accumule tous les obstacles devant votre chemin, même s'il est là pour vous décourager, pour vous faire voir, vous dire et vous mentir sur Dieu, mais Dieu ne s'occupe pas de toi, tu es bien trop petit, tu n'es pas ceci, tu n'es pas ça, tu n'es pas assez spirituel, tu n'as pas assez de foi, tu n'es pas. Et il en a des choses à vous dire, hein. Et si vous l'écoutez, il vous remplira encore bien les oreilles et vous découragera. Mais jamais notre Dieu ne nous abandonnera. Jamais. Ce n'est pas possible. Satan peut mentir, le monde peut rugir, les ennemis peuvent s'acharner. Notre Dieu reste toujours le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui ne changera pas. C'est avec certitude que nous pouvons le dire. Le Dieu qui est capable de dire le péché du côté droit de la barque, et il ramène un filet rempli de tant de poissons et que le filet ne se rompt pas, mais c'est le Dieu tout-puissant. Il a montré là qu'il était le Dieu Tout-Puissant, qui tenait les événements, et que pour leur dire, quoi qu'il arrive dans l'avenir, souvenez-vous que je suis toujours là, et que dans vos situations difficiles, je suis présent, je ne vous abandonnerai jamais. Il suffit de croire, il suffit de lever les regards, ne retournez pas à vos barques, ne retournez pas à vos filets, à votre pêche, ne retournez pas au monde, parce que ces choses ne vous rempliront pas l'estomac. C'est ce qu'il faut, c'est s'approcher de lui, se regarder vers lui, nous attendre à lui, et lui, eh bien, il intervient. Et c'est quelque chose, vous savez, quelque chose de merveilleux. Ces passages, toutes ces histoires ne nous sont pas dites, ces témoignages ne sont pas là seulement pour nous raconter l'histoire du Seigneur Jésus, mais c'est pour nous encourager, pour nous fortifier et pour que nous puissions voir et nous dire, mais celui qui a délivré ses disciples, qui était là, sur le bord de cette mer, qui leur a donné un tel exaucement, n'est-il pas capable d'intervenir, d'agir pour moi dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant? Et nous sommes, notre vie chrétienne, c'est une marche par la foi. Et nous devons croire et nous attendre et regarder à lui et compter sur lui. Et ça, c'est, vous savez, ça a l'air de rien, mais c'est finalement notre responsabilité sur la terre. Parce que les disciples n'ont pas vraiment fait exprès, hein. Ils étaient découragés, on ne peut pas dire qu'ils avaient vraiment de la foi. Mais nous, quand nous marchons par la foi, eh bien nous sommes un encouragement pour les autres. Parce que les autres voient notre manière de faire, comment Dieu a agi en notre faveur, comment il a délivré. Alors nous disons, si Dieu a pu délivrer un tel ou une telle, ou s'il a fait de telles choses, pourquoi ne peut-il pas faire ces choses-là pour moi? C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas imaginer les moyens que Dieu, et puis ne les imaginez même pas, parce que Dieu est beaucoup plus grand que toute votre imagination. Si vous avez 10 solutions, hein, qui vous viennent à l'esprit, Dieu va utiliser la 11e. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est l'expérience qui parle, hein. Combien de fois j'ai imaginé Dieu va faire de cette manière-là, il peut faire comme ci et comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il agit. Il va agir de la manière que lui, il a choisi. Et ça ne vous viendra pas à l'esprit, mais il vous délivrera. Comment a-t-il délivré les disciples? Un filet, 153 grands poissons, et puis bon, ça aurait pu être autre chose. Mais c'était de cette manière-là, c'est celle qui nous est décrite. C'est notre vie chrétienne est une marche par la foi. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre.
On va chanter Quel est l'enfant? Noël, quel est l'enfant? Je pensais la pêche suivante qu'ils ont eue, c'était à Jérusalem, lorsque 3000 personnes se sont tournées vers le Seigneur. Hein. C'était cela que le Seigneur voulait leur apprendre plus tard. Cet enfant dans la nuit, bercé doucement, bercé par Marie, pour celui pour qui resplendit le ciel, révélant au berger le temps de Noël. C'est Christ le Messie, le roi, que les anges chantent avec tant de joie. Venez comme les bergers, louez l'enfant sauveur qui vous est donné. Que fait-il là, cet enfant si beau, dormant sur la paille comme un agneau? Pardon? Ouvrez les yeux, voici le Seigneur, pure grâce de Dieu pour tous les pécheurs. Un jour pour vous et pour moi, ce roi marchera en portant sa croix.
Venez comme les bergers, louez l'enfant sauveur qui vous est donné.
Avant de chanter la troisième, on va avoir quelques annonces rapidement. Donc il n'y a pas de chorale les prochaines semaines. La chorale reprendra le 5 janvier. Et par contre, je sais que certains vont quand même répéter vendredi, c'est ça ou pas? Avec Seth et... Enfin, je sais pas. En tout cas, s'ils ont prévu, voilà, vous verrez ça ensemble, vous organisez entre vous. Il n'y a pas de problème, l'église est ouverte pour chacun. Et voilà, donc, culte dimanche à 11h, c'est un culte aussi sur le thème de la naissance du Seigneur, puisqu'on sera le 24. Le soir, il y a un repas pour ceux qui sont inscrits. Pardon. Le soir du 24, donc. Et puis ensuite, la réunion de prière toujours active toute l'année. L'étude biblique également aussi, mercredi prochain. Voilà, il y aura peut-être de l'évangélisation cette semaine avec Patrick ou tu sais pas. Ah, tu travailles vendredi, d'accord. Donc peut-être après Noël, voilà. D'accord, contactez Jonathan ou Patrick. Et puis, je pense que c'est tout. Le 31, donc il y aura, ce sera un dimanche, il y aura également le culte. Et nous voulons avoir un repas, une veillée, le 31. Et là, je vais avoir besoin de personnes qui organisent. Voilà, en général, ça se passe comme ça. Les chrétiens apportent de quoi manger. On fait un grand repas fraternel, mais un peu spécial. C'est le 31, donc avec des ingrédients, voilà, du caviar, beluga. Non, pardon. Non, non. Du homard bleu de Bretagne. Donc, Annick, tu nous ramènes du homard. Non. Mais donc, il faut quelqu'un qui gère un peu... Qui apporte quoi? Que les gens viennent vers ces personnes. Ça peut être deux personnes qui organisent. Il faut avoir des jolies nappes, des, voilà. On a des belles assiettes aussi, mais. Alors, il y a peut-être un professionnel du métier qui pourrait, Bon, le pauvre, il aimerait avoir des vacances aussi, mais bon.
Je le fais
par la foi. Comme le message l'a dit, c'est trop élevé pour nous. Mais en tout cas, donc voilà, tu peux être celui qui reçoit les éléments, qui organise. Tu peux avoir de l'aide aussi si quelqu'un veut l'aider. Vraiment, portez-vous volontaire. Il y aura un petit programme aussi spirituel. Bien sûr, il y a la prière à minuit et il y a un petit programme de chant. Voilà, on passe un moment ensemble, vraiment de communion fraternelle. Dans la simplicité de Christ. Donc ça, c'est le 31. On chante la